Je veux sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça
dégoûte les jambes.
Allez-y.
J'adore ça. Moi, je sors tout le temps.
Mais putain, sortez chez vous, bordel.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez l'herbe, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette.
Oui,
c'est la culture. Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez,
vous voulez sortir?
Au chien bleu, chez
sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sorti tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis, comme toujours, avec mon acolyte en service civique, Samuel. Salut.
Salut Marie.
Aujourd'hui, une émission verte qu'on fera en compagnie d'Aidan, volontaire en service civique à la Brigade Verte du département d'Indre-et-Loire. Bonjour à toi.
Bonjour.
Alors, petite première question introductive. Qu'est-ce que la Brigade Verte et quel est son rôle ?
Alors, la Brigade Verte, c'est une brigade qui fait partie du service transition écologique du département d'Indre-et-Loire. On va dire que le service transition écologique s'occupe de tout le volet écologique et environnement sur le département. Et la Brigade Verte va assurer tout ce qui est l'entretien spécifique aux ENS, c'est-à-dire les espaces naturels sensibles. Il y a deux salariés et généralement un de service civique.
Et du coup, quels sont leurs différents postes à ces salariés? Quels sont leurs différents domaines d'expertise?
Alors, on a donc notre référent, enfin le référent à moi et l'autre service civique qui est technicien et aussi garde. Et le deuxième salarié est aussi technicien, je crois. Je sais pas trop.
Et est-ce qu'il y a des partenaires avec lesquels vous êtes amené à travailler?
Des partenaires. Il nous est déjà arrivé d'aller sur des sites et de rencontrer des associations comme le Conservatoire d'espaces naturels qui gère certains sites ENS. Et après partenaires, plutôt des collègues de travail, du coup au service de transition écologique, on travaille des techniciens. Et puis voilà.
Ça peut arriver aussi que vous soyez du coup en contact avec les collectivités par exemple? Oui. Ou les municipalités, oui.
Je ne suis pas sûr d'en avoir rencontré, mais en tout cas, oui. Après, c'est plutôt les techniciens du service transition écologique qui les rencontrent, mais ça peut nous arriver aussi.
Et alors, toi, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire un service civique à la Brigade Verte?
Alors, j'ai toujours été intéressé par la gestion et la protection de la nature. J'ai toujours voulu travailler là-dedans, faire mes études là-dedans. Et moi, j'ai plutôt fait des formations sur l'agriculture parce que mes parents sont agriculteurs, j'ai été élevé là-dedans. Et du coup, je me suis plutôt focalisé sur ces formations-là qui sont un peu plus ouvertes parce que les formations gestion et protection de la nature sont assez sont très demandées. Et du coup, j'ai voulu voir un peu le domaine. Même si j'étais passionné, je ne savais pas trop les métiers qui étaient dans ce domaine-là. Et du coup, ce service civique m'a tout de suite plu dès que j'ai lu la description. Et je me suis dit, bon, bah, c'est exactement le métier que je vise. Mais du coup, qu'est-ce qui en découle? Et du coup, j'ai pu voir tout ça dans ce service civique.
Est-ce qu'il y a des choses, du coup, dans ton parcours qui te sont utiles dans ce service civique?
J'ai fait un BTS production agricole. Du coup, on fait beaucoup d'entretien avec, sur les ENS, donc sur les végétaux, etc. Donc, bah, tout ce que j'ai appris en pratique, on va dire, je le réutilise dans le service civique.
Et alors, au sein de ce service civique, la Brigade Verte d'Indre-et-Loire, quelles sont tes missions?
Du coup, la Brigade Verte, elle s'occupe de du petit entretien des sites ENS. Et le plus gros entretien,
c'est ENS, espace naturel sensible.
Voilà, c'est ça. C'est des entreprises qui le font, généralement des entreprises d'insertion. Du coup, nous, c'est beaucoup l'entretien comme la réparation des observatoires, des bancs, enfin du mobilier des sites. Et entretien aussi lavage des toilettes quand il y a des toilettes qui sont présentes sur les sites, des panneaux, des chemins, la taille des arbres, des haies, etc. Avec notre référent qui est garde, donc on fait aussi un peu d'observation ornithologique et aussi de la surveillance, comme il est garde, de voir si tout le monde respecte bien le règlement. Ça nous arrive aussi de faire des actions avec les techniciens du service transition écologique, où on a pu participer à la remise en eau d'un étang, l'étang du Louroux, donc dans le département du coup. Et on fait aussi un peu de sensibilisation. Par exemple, en ce moment, on a un questionnaire qu'on doit poser à l'île de la Métairie, qui est à côté de Tours, pour savoir un peu comment les gens trouvent la propreté du site, est-ce qu'ils voient des améliorations à faire sur le site, ce genre de choses.
Et donc, à quoi ressemble une journée typique en tant que service civique à la Brigade Verte ?
On commence à 7h30.
C'est tôt.
En hiver, c'était compliqué parce qu'il fallait attendre que le jour se lève.
Mmh. Maintenant, il se Telle lève des poules.
Là, c'est ça. Mais généralement, soit on reste à l'atelier, mais beaucoup l'hiver, on reste à l'atelier. Quand il faut réparer des choses, on le fait à l'atelier. Mmh. Mais généralement, du coup, quand les beaux jours arrivent, on va directement en fait, sur le terrain. On prend tous les outils avec nous. Mmh. Et après, on part sur le terrain pour soit aller faire l'entretien... le ramassage des poubelles à la métairie, encore une fois, ce genre de choses. Et puis on finit à 16h30.
Et alors, sur quel type de terrain est-ce que tu interviens ?
C'est-à-dire ?
Eh bien, sur quels ENS tu vas ? Est-ce que c'est des forêts ? Est-ce que c'est des parcs ? Est-ce que c'est des marécages ?
Alors, du coup, le département de l'Indre-et-Loire, il a 61 ENS, dont 21 que lui, il gère. Donc la Brigade Verte va intervenir surtout sur du coup, les 21 sites qu'il gère, puisque les autres, c'est des associations, les communes, etc. Nous, en particulier, on fait l'île de la Métairie, parce que c'est un site c'est le seul site qui a des poubelles. Mmh. Du coup, il faut aller ramasser les poubelles. Donc généralement, c'est deux jours par semaine et plus en été. On peut aller aussi beaucoup à l'étang d'Assay, c'est un étang, et zone humide. On a aussi le temps du Louroux, l'étang d'Archevêque. On va beaucoup s'occuper des étangs, il y a beaucoup de mobilier là-bas, donc à aménager. Mais il y a aussi des coteaux, des prairies humides, il y en a à la Choisie par exemple, et c'est un peu les principaux qu'on fait.
Et du coup, est-ce qu'il y en a un que tu préfères arpenter ?
J'aime beaucoup la Choisie parce que déjà, c'est comme je ne peux pas trop me déplacer, comme je n'ai pas de voiture, c'est celui qui est quand même assez près de Tours, je trouve, et qui, contrairement à la Métairie, il est un peu plus sauvage, je trouve, parce qu'il est un peu moins fréquenté. Les chemins sont un peu plus petits, donc forcément, les gens y vont moins. Et je trouve qu'il est très beau, malgré le fait qu'il y a donc, les grandes routes qui passent. Donc il y a beaucoup de bruit, mais en tout cas, je trouve que c'est très joli.
Et du coup, la route, ça perturbe pas trop
la faune et la flore ? Ça perturbe beaucoup. Mmh. Ça perturbe beaucoup, mais du coup, à certains endroits, ils ont mis des murs pour essayer de...
limiter un petit peu ça.
Ça fait le bruit, mais bon, ça marche pas tout le temps.
Et toi, donc, quels sont les aspects que tu apprécies le plus et le moins dans tes tâches quotidiennes ?
J'aime beaucoup tout ce qui est l'entretien dans le sens où j'apprends beaucoup de compétences. Du coup, il y a plein de compétences que j'ai pu avoir, surtout dans le maniement des outils. C'est vrai qu'il y avait plein d'outils que je ne connaissais pas, donc que j'ai pu apprendre. Du coup, un des salariés qui est là, ça fait 25 ans qu'il travaille à la brigade. Du coup, il a énormément d'expérience. Et du coup, il nous donne toujours des petits tips pour faire même nous reproduire chez nous quand on a besoin de faire du jardinage ou ce genre de choses. Et du coup, c'est super intéressant. Après, le truc que j'aime le moins, c'est ramasser les déchets des autres. Surtout quand ils mettent les déchets à côté de la poubelle.
Truc vraiment rageant.
Après, il y a aussi l'observation, parce que du coup, on fait pas mal d'observations quand on a fini nos tâches sur les sites. À la jumelle, aux jumelles, etc. Et je trouve ça super intéressant.
Et est-ce que ça arrive que vous ayez un rôle un petit peu de police pour dicter un petit peu les bons comportements et reprendre parfois certains comportements problématiques ?
Ça nous est déjà arrivé parce que du coup, donc notre référent est garde. Du coup, il peut en soi poser des PV. Il me semble qu'il ne veut pas encore le faire pour l'instant, mais on est plutôt dans la phase de sensibilisation pour l'instant. Donc il va prévenir les gens. Ça nous est déjà arrivé de tomber sur des gens qui... parce que sur la plupart des sites, les chiens sont soit tenue en laisse soit interdit. Donc souvent, on doit sensibiliser les gens. Les gens sont assez fermés ou agressifs. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des gens qui sont agressifs envers nous parce qu'on leur demande de tenir leur chien. Mais c'est principalement pour cette raison.
Est-ce que tu penses que toute personne qui n'est pas assez proche du monde agricole peut faire ce service civique?
Est-ce que tu peux répéter ta question?
Est-ce que, bah, par exemple, moi, je m'y connais pas du tout dans le monde agricole. Okay. Est-ce que je pourrais faire ce service civique? Est-ce qu'on reprend un peu des bases?
Tout le monde peut faire ce service civique. Je pense qu'il n'y a pas de profil type du monde que tu aimes un peu la nature. Et puis, je pense que ce service civique peut te faire aimer la nature aussi, je pense. On apprend plein de choses, donc il n'y a vraiment pas de profil type.
Est-ce que tu as envie de faire ce service civique?
Qui sait? Oui, notre...
Non, c'était une question de curiosité, très bien. Donc, merci à toi, Aiden, pour cette première présentation. Donc, on va y revenir après une pause musicale sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. Que va-t-on écouter, Samuel?
On va écouter Mathieu Ansel en feat avec The Guana Orchestra et le titre Dan Park sur Radio Campus Tour. Thank you. Vous venez d'écouter Machu en solo en feat avec The Gondwana Orchestra et leur titre Dan Park sur Radio Campus Tour. Il est temps à présent de nous intéresser de plus près à notre invité. Alors je rappelle que Aiden, en service civique à la Brigade Verte du département d'Indre-et-Loire, est avec nous aujourd'hui. Et donc en Indre-et-Loire, il y a 63 espaces naturels sensibles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui caractérise ces espaces et selon quels critères on décide de cette appellation?
Alors du coup, les ENS, c'est des aires qui sont protégées par la législation française. C'est des territoires à haute valeur, on va dire, qui ont des habitats remarquables, des espèces remarquables, et où il y a un accueil du public dans la limite de ce qu'on peut, quoi, pour la protection du milieu. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que la Brigade Verte, elle met en œuvre pour la protection de ses ENS?
Du coup, nous, c'est plutôt de l'entretien, donc on est plus à faire en sorte que l'aménagement du public reste correct. On va entretenir les chemins et aussi, du coup, pour la biodiversité, on va entretenir les haies, les arbres, etc. Mais on est vraiment, du coup, plus dans l'entretien. C'est plutôt les techniciens du service transition écologique qui, eux, ont un plan de gestion de chaque site et qui, eux, vont mettre en œuvre des plus gros aménagements. Et c'est eux qui vont décider un peu comment va être géré le site.
Et donc, quels sont les enjeux qui ont été identifiés par le département pour les espaces naturels sensibles?
De restaurer et de sauvegarder la biodiversité qui sont présents sur les sites et sur des sites qui sont, on va dire, un peu représentatifs du patrimoine tourangeau. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étangs et qu'il y a beaucoup de coteaux. D'accueillir et de sensibiliser le public à la nature. Et c'est principalement ça, les enjeux de cette politique.
Ce qui est déjà, j'imagine, difficile à tenir aussi. Oui.
Et donc, parmi ceux que tu connais, quels sont, d'après toi, les espaces naturels sensibles emblématiques du département?
Je ne saurais pas forcément, parce que moi, je viens pas de l'Indre-et-Loire. Mmh. Je viens du Cher, qui est plus loin. Du coup, je ne connais pas tant que ça ce département. J'ai vraiment découvert ce département avec ce service civique-là, parce que ça va faire 4 ans que je suis là et j'étais resté 4 tours, et potentiellement Amboise. Wow. Mais du coup, avec ce service civique, j'ai vraiment découvert plein de sites différents. Mais j'ai beaucoup l'impression qu'il y a pas mal de coteaux et d'étangs. Donc je dirais que les sites emblématiques, on aurait le Louroux, parce que c'est un étang assez grand. Il y a pas mal de choses qui sont faites là-bas. On a l'île de la Métairie aussi, parce qu'elle est à côté de l'agglomération et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y viennent. Donc il y a beaucoup d'animations. Et puis les coteaux qui sont aussi très jolis, mais du coup moins visités. On a le coteau de Port-sur-Vienne, où on va souvent, qui est pas mal. Je dirais que c'est ce genre de site qui est plutôt représentatif.
Du coup, alors la prochaine question sera peut-être un peu plus difficile à répondre, mais tu as déjà cité pas mal d'endroits. Est-ce qu'il y a un espace naturel sensible qui est assez méconnu et que tu aimerais faire découvrir?
Le coteau de Port-sur-Vienne. Parce que je trouve qu'il est un petit peu fragmenté, parce que du coup le département va acheter les terrains, mais des fois il ne peut pas acheter tout le bloc de terrain. Donc c'est un peu fragmenté des fois. Mais je trouve que le coteau de Port-sur-Vienne, il est vachement sympa. Il n'est pas trop connu parce qu'il est vraiment en campagne. Mais il y a vraiment beaucoup de paysages vraiment très jolis. Il y a une faune sauvage vachement intéressante. Et j'aime beaucoup quand on va là-bas, parce qu'on se balade un peu. Je pense que les gens devraient aller voir. Après, c'est pas trop accessible, par exemple, pour les personnes PMR ou ce genre de choses, parce que c'est vraiment des chemins qui sont très pentus. Donc, pas accessible à tout le monde, je pense, mais très intéressant.
Quels sont les milieux les plus menacés?
C'est les prairies humides, c'est les zones humides en général, les tourbières, ce genre de choses.
Parce que c'est quoi le principal risque dans ces zones humides ?
Elles sont détruites. Bon, par exemple, dans les tourbières, elles sont utilisées, dans l'horticulture par exemple. Mais ce sont, alors, je ne dis pas de bêtises, des pièges à carbone. Mmh. Donc très très intéressant avec tout le dérèglement climatique. Donc forcément leur disparition, bah, ça fait
pose problème. Ouais.
Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de biodiversité là-bas. C'est un écosystème très intéressant. C'est pour ça que de plus en plus on le protège.
Voilà. Et alors carrément, t'as été répondu. Par volonté donc de dialoguer avec le public, le département il a mis en place un agenda vert. Donc tu le disais, la Brigade Verte, elle n'intervient pas directement dessus, mais tu trouvais ça plutôt intéressant d'en parler. Donc il y a différents événements et activités, avec l'arrivée du printemps. Et donc sur quel type d'événement est-ce qu'on va pouvoir retrouver donc le service de transition écologique du département d'Indre-et-Loire?
Alors du coup, dans l'agenda nature, on va trouver des stages pour découvrir des plantes comestibles, par exemple. Des activités aussi là-dedans. Il y a aussi, je crois, un atelier pour faire du fusain, je crois. Des balades au crépuscule, des sorties ornithologiques. Il y a aussi des ateliers de sensibilisation aux enjeux écologiques. Il me semble aussi qu'ils peuvent proposer des spectacles, des conférences, des ciné-débats, ce genre de choses.
Est-ce qu'il y a des nouveautés, du coup, cette année, ou quelque chose?
Alors, dans l'agenda, plus d'animation encore.
Toujours plus.
Voilà. Au niveau des ENS, on a l'étendard archevêque qui va avoir un nouvel observatoire. Et de nouveaux aménagements aussi sur le lac de Chemillet, sur Andre.
Alors oui, la plupart des animations, donc elles sont gratuites et pour tous les publics dans une démarche de vulgarisation. Oui. Donc tu dirais que ce contact avec le public, il est essentiel pour la sensibilisation et pour l'éducation à l'environnement?
Il est essentiel et surtout pour tous. Et je trouve ça vraiment bien que ça... Alors pas tout est gratuit, il me semble que c'est surtout les gros stages qui sont payants, mais je pense que c'est normal parce qu'ils sont quand même assez longs. Mais le fait que ça soit gratuit, c'est vraiment accessible à tous. Il y a vraiment des animations autant pour les adultes que pour les enfants. Et c'est super pédagogique de ce qu'on peut voir dans l'agenda. C'est vraiment essentiel pour que les enfants et les adultes puissent être proches de la nature.
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans la protection des espaces naturels sensibles ?
On va dire plus de sensibilisation au niveau du public et peut-être... d'être de l'État.
Parce que on dit ça timidement, mais on le dit quand même.
Parce que du coup, l'aménagement, le département, quand même, il achète les terrains avec la taxe d'aménagement. Mais quand même, l'aide de l'État est quand même importante, rien que dans la législation, pour gérer tout ça. Parce qu'on voit que maintenant, là, il y a certaines mesures environnementales qui sont citées il n'y a pas longtemps, qui sont clairement en défaveur de la biodiversité. Donc, elle a quand même un gros rôle là-dedans, mais aussi le public, parce que quand on voit sur certains sites que des gens n'ont pas la logique d'être respectueux envers les sites où ils vont, mais aussi envers les gens qui travaillent, comme la Brigade Verte, où on ramasse derrière les gens, où on voit que les gens, ils n'ont pas ce bon sens-là, ils mettent leurs déchets partout. Je pense qu'il y a une grosse sensibilisation au public qui est à faire aussi, qui est importante.
Voilà. Et alors, loin de moi l'envie de faire l'avocat du diable, mais c'est aussi peut-être parce qu'on connaît mal les professions qui sont derrière l'entretien de ces espaces-là. Et ça peut paraître aussi abstrait pour les gens, et donc je comprends bien d'où la volonté de sensibiliser davantage. Et donc l'agenda vert dont on parlait, la programmation entière est à retrouver aussi sur le site www.touraine.fr. Et donc nous, on va faire une nouvelle pause musicale. On va écouter une artiste choisie par notre invité du jour, c'est Liana Flores, avec le titre Halfway Heart. avec un bel accent, issu de son album Flower of the Soul, Full Bloom, sorti fin 2024. Moon and sun, planetary. Makes me think of you and I. Parallel lines, ways predefined. Silvered sound, hear the rivers underground. Look my way. C'était Liana Flores avec son titre Halfway Heart sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez et avec nous Aiden de la Brigade Verte d'Indre-et-Loire. Et je me corrige aussi rapidement, enfin je disais avant la pause musicale que l'agenda était à retrouver sur le site internet de Touraine.fr, ce qui est absolument vrai. Mais il est aussi à retrouver en format papier à la mairie dans les offices de tourisme et en affiche aussi sur certains sites que nous avons cités jusqu'à maintenant. Et donc, Aiden, est-ce qu'il y a un sujet qui te tient particulièrement à cœur et sur lequel tu aimerais renforcer les actions de sensibilisation ?
Je pense que c'est le respect des lieux. Comme je l'ai dit, je l'ai encore plus vu en étant au service civique. Mais c'est vrai que ce qu'on explique le plus aux gens, c'est pourquoi il y a un règlement dans le site. Les gens ne lisent pas forcément le règlement. Des fois parce que pour eux, c'est logique qu'il y ait certaines règles, comme pas faire de barbecue ou pas laisser traîner ses déchets partout. Mais S'il y a un règlement, c'est que c'est vraiment important. Des fois, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi. Et du coup, comme je vous disais, on a un questionnaire sur l'île de la Métairie à faire. Et on se rend compte avec la réponse des gens que beaucoup ne comprennent pas forcément pourquoi derrière. Et l'action de sensibilisation là-dessus, elle est super importante parce que du coup, on explique pourquoi c'est important de garder son chien en laisse, parce qu'il y a la faune sauvage. Un chien, il court après tout ce qu'il voit. Donc si c'était un oiseau protégé, bah paf, plus d'oiseau protégé. Ce genre de choses, super important. Voilà.
Et donc à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre impact sur ces espaces ?
Être respectueux et lire le règlement. Après, je vais être honnête, je ne l'ai pas lu entièrement. Je en connais les grandes lignes. Mais sur ces espaces-là, il faut se dire qu'on n'est pas tout seul. Et que même dans n'importe quel un espace où il y a un bout de nature, on n'est pas tout seul. Il y a une grande biodiversité qui est partout. Et ce qui est super important, c'est d'être respectueux. Voilà. Si on a des déchets, les ramener avec nous, pas faire un bruit monstre quand on y va, de faire attention où on marche, c'est super important.
Et alors, il te reste quelques mois de mission. Comment est-ce que tu te sens sur ces derniers mois à venir ?
J'ai hâte, parce qu'on arrive au beau jour. Et que j'ai commencé en octobre, du coup, c'était beaucoup d'activités, d'intérieur, à l'atelier, etc. Et là, on va arriver avec une faune et une flore différentes de l'hiver, et que j'ai hâte de découvrir, et j'ai des stages qui arrivent, etc. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça.
Et qu'est-ce que cette mission t'a apporté au sein de la Brigade Verte ?
Beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences dans plein de domaines différents. Et puis une idée de ce que je voudrais faire par la suite. Ça a remis plein de choses en question. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. J'ai vu plein de métiers différents. Et j'ai vu plein de facettes de métiers. J'ai vu vraiment plein de choses. J'ai vu plein d'expériences super enrichissantes.
Et si tu veux bien le partager avec nous, quelle prise de conscience t'as pu avoir et quelle réalisation t'as fait ?
À quel point le domaine de l'environnement il est complexe et que en réalité il y a tellement de métiers qui travaillent dans l'environnement et qui œuvrent chaque jour pour la protection de l'environnement et pas forcément juste un technicien d'environnement. En fait, il y a plein de métiers qui œuvrent, même ceux qui même le service routier donc. Qui œuvre à s'occuper des routes, mais aussi des bords de chemin. C'était surtout ça.
Ok, ouais. Énormément d'acteurs mobilisés dessus. Ouais. Comment. Je cherche un bug général, pardon. Comment tu l'envisages, du coup, ton après-service civique ? On n'est pas chez France Travail, hein. C'est pas une question qui se vend angoissante.
Non, je suis en année de césure cette année. Inscrit en licence géographie, continuer, donc rentrer en licence géographie après cette année de césure, parce que aussi c'est une licence qui se veut vouloir travailler ensuite dans le domaine de l'environnement. Donc, voilà.
Mettre à profit cette expérience. Et alors, comment est-ce qu'on peut contacter la Brigade Verte et où est-ce qu'on peut la retrouver ?
Comment on peut la contacter ? Ah, ça c'est une bonne question.
En tapant des mains et en criant brigadeur.
Je sais pas vraiment si on peut nous contacter. J'imagine qu'il y a un numéro. Mais comme on est un service qui s'occupe des sites, qui est beaucoup, c'est une brigade qui est interne. Après, on peut nous trouver à Saint-Pierre-des-Corps, au service routier.
Et si on vous croise lors d'une balade dans un des espaces naturels sensibles? Est-ce que vous êtes ouvert à répondre aux questions du public ou c'est moins votre rôle et donc vous demandez de passer notre chemin ?
Non, on est vraiment dans la sensibilisation. Donc, quand il y a des gens qui ont des questions sur les sites, c'est avec plaisir qu'on leur répond. Du mieux qu'on peut, en tout cas.
Merci à toi pour ta participation. Est-ce que la Brigade Verte a des réseaux sociaux ?
Pas du tout. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça.
Eh bien, merci beaucoup à Eden d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Et alors, parce que cette émission est axée sur l'environnement et la nature, on a sélectionné un podcast pour venir compléter tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc ce podcast, c'est La Vie Partout, réalisé par Quentin, un podcasteur indépendant. Et son podcast, il l'a créé en 2022, il compte déjà 6 saisons et il se focalise donc sur des sujets assez précis. On vous propose donc d'écouter cet épisode dans lequel il pose cette question: est-ce vraiment utile de nourrir les oiseaux ?
Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous, nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des oiseaux et des mangeoires qui apparaissent dans les jardins en hiver. Car figurez-vous que nourrir les oiseaux, eh bien, ce n'est pas une action anodine. Parfois, en voulant bien faire, nous leur faisons plus de mal que de bien. Mais pas de panique, car dans cet épisode, je vous ai compilé plein d'infos à savoir pour vivre en harmonie avec le peuple ailé. Nous verrons ce qu'ils préfèrent manger en fonction de la saison, quoi leur donner et quand le faire. Bienvenue dans le 6e épisode de la saison 3 du podcast La Vie Partout. Je vous souhaite une bonne écoute. Les oiseaux ne mangent pas tous la même chose. Leur régime est même plutôt varié. Ce qui est normal, car il existe des milliers d'espèces différentes d'oiseaux. Rien qu'en France métropolitaine, nous pouvons compter pas moins de 570 espèces d'oiseaux différentes. Des petits, comme le troglodyte mignon, aux plus grands, comme le vautour fauve ou le gypaète barbu. Notons qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler des oiseaux qui se nourrissent exclusivement de poissons ou de viande. En général, il y a peu de chances de les trouver dans nos jardins. Nous allons surtout nous intéresser aux petits oiseaux, à ceux qui chantent quand vient le printemps et qui nous régalent les oreilles. Alors sortons un peu pour partir à leur rencontre. Avant de se demander si donner à manger aux oiseaux sert à quelque chose, il est important de savoir ce qu'ils mangent. Alors on peut classer les oiseaux de nos jardins en 3 grandes catégories. Il y a les oiseaux granivores, qui mangent principalement des graines, les oiseaux insectivores, qui mangent des insectes, et les omnivores, qui mangent un peu de tout. Ces 3 grandes familles ne sont pas fermées. Parfois, le régime de ces oiseaux peut changer en fonction de la saison. Vous allez voir, on y reviendra. Mais commençons déjà par étudier ceux qui mangent des graines, comme ce petit oiseau. Le chant que vous entendez là, c'est celui du chardonneret élégant. Un magnifique oiseau, sûrement le plus beau qu'on puisse voir dans nos jardins. Il est facilement reconnaissable avec son masque rouge, avec des ailes jaunes et noires. C'est lui, d'ailleurs, qui illustre l'épisode d'aujourd'hui. Cet oiseau a un bec court et assez costaud. C'est d'ailleurs une des caractéristiques des oiseaux granivores. Ces oiseaux mangent à peu près toutes les graines qu'ils trouvent dans la nature. Le chardonneret, comme son nom l'indique, est particulièrement friand de graines de chardon. Mais il appréciera aussi croquer celles des cosmos. N'hésitez pas à en planter quelques-unes chez vous, vous aurez des chances de l'attirer. Parmi les oiseaux granivores, il y a les moineaux, les verdiers ou encore les pinsons des arbres. Et ils se nourrissent sur les plantes qui sont à peu près partout autour de nous. À condition que nous laissions ces plantes faire leurs graines. Et surtout que nous les laissions aussi sur place. Souvent, les jardins sont trop propres. Nous enlevons les plantes sèches en pensant faire place nette. Mais en faisant ça, nous enlevons aussi les graines dont se nourrissent ces oiseaux. Un jardin trop propre, ce n'est pas un jardin vivant. C'est un jardin adapté à notre vision culturelle de ce qui est beau. Mais revenons à nos oiseaux. Vous l'avez remarqué, leur bec n'a pas de dents. Mais alors, comment font-ils pour broyer les graines ? Eh bien, ils ont un organe fait spécialement pour ça. Les oiseaux avalent leurs aliments tout rond. Ces aliments sont ensuite amenés vers un organe spécial de leur système digestif qui remplace la mastication. Cet organe, c'est le gésier. Il est fait de puissants muscles capables de broyer les graines. Et comme les oiseaux ont un métabolisme élevé indispensable pour dégager l'énergie nécessaire au vol, eh bien leur système digestif arrive à digérer efficacement les graines. Mais si ça ne suffit pas, certaines espèces, comme les pigeons ou les tourterelles, vont carrément avaler des petits graviers pour faciliter le broyage dans leur gésier. Pourtant, même avec tout ça, certaines graines vont résister à la digestion. Elles sont alors éjectées un peu plus loin, se retrouvent dans les fientes, prêtes à germer. Voilà déjà ce qu'on peut dire sur les oiseaux mangeurs de graines. Nous verrons tout à l'heure s'il faut les nourrir ou non. Parce qu'avant, nous devons nous intéresser à la seconde catégorie. Les oiseaux insectivores. L'oiseau que vous entendez là, c'est un troglodyte mignon. C'est un de mes oiseaux préférés. C'est une toute petite boule de plumes qui sautille souvent dans le jardin à la recherche de petits invertébrés. Il est facilement reconnaissable avec cette petite queue redressée. Eh bien, le troglodyte mignon est insectivore. Ça se voit car son bec est plus long et plus fin que celui des oiseaux granivores. Les oiseaux insectivores sont nombreux dans nos jardins. On peut par exemple citer le rouge-gorge ou le rouge-queue. Sauf qu'en hiver, les insectes disparaissent des jardins. Alors, de nombreux oiseaux insectivores partent de chez nous. C'est le cas des hirondelles et des martinets. D'ailleurs, si le sujet de la migration vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode du podcast « Et si c'était la fin des oiseaux migrateurs ?» Vous apprendrez davantage de choses sur eux. Car aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les oiseaux insectivores, mais qui ne sont pas capables de migrer. Pour résister à l'hiver, ils vont devoir adapter leur alimentation. Mais avant de vous en parler, écoutez ça. Ça, c'est un merle qui fouille dans mon jardin. En hiver, je recouvre mon potager de feuilles mortes pour protéger la vie du sol. En dessous, les vers de terre peuvent vivre leur vie et rendre mon sol meilleur pour les cultures de printemps. Et ça, le merle, il l'a bien compris. Alors, il retourne mon paillage de feuilles pour chercher les vers de terre dont il est friand. Et j'avoue que ça me rassure un peu de le voir faire ça. Car ça veut dire que sous les feuilles, il y a de la vie. Et d'ailleurs, le merle n'est pas le seul à chercher à manger dans le potager. Un peu plus loin, il y a une grosse pierre plate. Et cette pierre, je ne l'enlèverai jamais. Car c'est l'outil d'un oiseau particulier, la grive musicienne. La grive musicienne adore les escargots. Mais sans main, elle devrait avoir bien du mal à les extraire de leur coquille. Pourtant, aucun problème pour elle. Car elle peut compter sur sa grosse pierre plate sur laquelle elle va casser les coquilles des escargots. Et oui, il y a un oiseau chez nous qui utilise une sorte d'outil. Mais ces oiseaux ne se contentent pas de vers ou d'escargots. Comme de nombreuses espèces, ils adaptent leur alimentation en fonction de la saison. En automne et en hiver, les arbres se couvrent de baies et de fruits. Les merles et les grives en profitent, mais ce ne sont pas les seuls. Comme je vous le disais, de nombreuses espèces adaptent leur régime alimentaire en fonction de la saison. C'est le cas du rouge-gorge, qui a un régime insectivore pendant la belle saison, mais qui apprécie aussi les baies du cotonnet aster ou du sorbier en automne. Il lui arrivera aussi de venir aux mangeoires l'hiver, tout comme ces petits oiseaux très communs que vous avez sûrement chez vous. Écoutez. Ce que vous entendez là, c'est le chant d'une mésange. En hiver, ces petits oiseaux sont granivores. Puis ils redeviennent insectivores au printemps et en été. Ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, les oiseaux vont plutôt manger des baies et des graines pendant l'hiver et que pendant la belle saison, ils vont manger des insectes. Mais ce ne sont pas les seuls, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les nids, au printemps et en été, les jeunes oiseaux fraîchement éclos ont besoin de beaucoup de protéines pour grandir. Et ça, c'est important. Alors les adultes vont devoir partir à la recherche d'insectes pour pouvoir les nourrir. Et ça, c'est extrêmement important quand on parle du nourrissage des oiseaux. Retenez-le bien, parce qu'on va y revenir plus tard. Mais avant, il faut que je vous parle d'un oiseau que tout le monde connaît. Eux, ce sont les pigeons ramiers. Et question alimentation, ils ne sont pas franchement difficiles. Ils peuvent se nourrir de feuilles, de bourgeons, de jeunes pousses et de graines diverses. En fait, contrairement à ce qu'on croit, les pigeons sont plutôt herbivores, mais ils pourront tout de même avaler un gland de chêne ou une cerise si jamais ils en ont l'occasion. Même plusieurs cerises, il faut l'avouer. Il leur arrive aussi de manger de petits invertébrés, des vers, des larves ou des mollusques, mais c'est plus rare. Alors voilà pour les oiseaux les plus communs de nos jardins. Évidemment, la liste est longue et je n'ai choisi que quelques espèces qui me semblaient les plus parlantes. Nous avons vu les trois régimes alimentaires principaux et surtout que les espèces s'adaptent en fonction de la saison. Mais tout ça ne nous dit pas s'il faut les nourrir ou non. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, il faut se dire une chose. Normalement, les oiseaux trouvent tout ce qu'il leur faut dans la nature. Ils ne nous ont pas attendus pour vivre leur vie et nous n'avons pas besoin de les nourrir. Mais évidemment, ça dépend de l'état des écosystèmes, de l'endroit où vous habitez. Néanmoins, il faut tout de même se dire une chose. Nourrir les oiseaux, c'est un acte que l'on fait pour soi-même, pour pouvoir les admirer et se dire qu'on fait un acte utile. Ça peut aussi permettre, pourquoi pas, de les recenser. Mais est-ce vraiment utile ? Eh bien, je vous propose d'aller voir ce que nous dit la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. La LPO nous conseille de nourrir les oiseaux uniquement en période de froid prolongé, soit en général de la mi-novembre à la fin mars. Surtout, la LPO nous déconseille de donner de l'alimentation à base d'insectes. Comme nous l'avons vu, les oiseaux adaptent leur alimentation et leur comportement en fonction de la ressource en nourriture. Leur donner des insectes risque de leur donner un faux signal que le printemps arrive. En fait, en dehors de l'hiver, il n'est pas conseillé de nourrir les oiseaux. Quand le printemps revient, beaucoup d'entre eux redeviennent insectivores. Surtout, le printemps, c'est la haute saison de naissance des jeunes. Les adultes doivent pouvoir trouver la nourriture adaptée à leur développement. Car les jeunes oiseaux ont besoin d'une nourriture très riche en protéines. Et dans la plupart des cas, ils ont besoin d'insectes. Si nous continuons le nourrissage en dehors de l'hiver, ça risque de créer une relation de dépendance entre les jeunes oiseaux et nous. Pourtant, ces oiseaux ont besoin d'apprendre aussi à se nourrir par eux-mêmes. Donc, en résumé, on peut nourrir les oiseaux de novembre à la mi-mars, et l'arrêt doit se faire progressivement. On réduit donc le nourrissage petit à petit, avant de l'arrêter complètement. Ça laissera le temps aux oiseaux d'adapter leurs habitudes. Surtout, n'oublions pas que c'est principalement un acte que nous faisons pour nous-mêmes et qui nous permet d'observer les oiseaux. Même si dans certains cas, les mangeoires les aideront à mieux passer l'hiver. À condition de faire attention aux chats. Pour éviter que votre acte de bonté se transforme en banquet pour les prédateurs, la mangeoire va devoir être située dans un endroit dégagé. Mais ce n'est pas tout. Il peut y avoir de nombreux oiseaux autour de la mangeoire. Des oiseaux qui d'habitude vivent éloignés les uns des autres. Alors, la mangeoire devient l'endroit idéal pour la propagation des maladies. Il est donc recommandé de nettoyer régulièrement les zones de nourrissage. Alors, maintenant qu'on sait où mettre la mangeoire et quoi faire avec, eh bien, on leur donne quoi aux oiseaux ? Eh bien, plutôt que de vous faire une longue liste, je peux déjà vous dire ce qu'il ne faut surtout pas mettre dans la mangeoire. Déjà, il ne faut pas leur donner de pain, ni d'aliments salés qui peuvent créer de gros problèmes digestifs aux oiseaux. À la place, vous pouvez tout à fait leur donner un mélange de graines composé d'un tiers de tournesol noir, de cacahuètes et de maïs concassé. Ça, ils adorent. Sinon, n'hésitez pas à mettre une demi-pomme, vous allez voir, pas mal d'oiseaux adorent croquer des pommes. Il ne faudra pas non plus de graisse animale, ni d'aliments à base de lait. Comme pour le pain ou les aliments salés, leur système digestif n'arrive pas à les digérer. Mais vous pouvez utiliser des boules de graisse végétale, à condition qu'elles soient sans filet. Car les oiseaux peuvent se coincer les pattes dans les mailles de ce filet et rester coincés. Par contre, s'il y a une chose que vous pouvez faire sans problème, c'est leur mettre à disposition des petits bacs d'eau qui leur seront toujours utiles pour se laver et s'abreuver. Je vous mets en description un article de la LPO pour que vous soyez sûr de ne pas faire d'erreur. Et à présent, il est temps de conclure. Vous l'aurez compris, il est difficile de savoir quoi donner à chaque espèce d'oiseau. Tout simplement car leurs régimes alimentaires sont variés et adaptés à leur environnement. Finalement, le mieux, c'est d'avoir un jardin ensauvagé, constitué de petits habitats remplis de plantes et arbustes locaux utiles à leur alimentation. Et ça tombe bien, car des plantes locales qui sont belles et utiles à la biodiversité, il y en a plein. Il y a les baies noires du sureau, les fruits rouges des rosiers sauvages, les baies du lierre grimpant, les graines du charme, du saule ou du chêne. Bref, tout un pan du vivant à se réapproprier pour sortir des jardins tous pareils, avec les mêmes plantes et le même gazon, tout droit sortis des mêmes jardineries. Ce sujet me tient vraiment à cœur, et j'avoue être surpris de voir les mêmes plantes de haies ici dans les Pyrénées que là-haut en Bretagne. Alors si vous voulez réensauvager les jardins, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter qui s'appelle « Comment réensauvager les jardins ». Vous y apprendrez quelles plantes choisir pour attirer quelle espèce. Car je crois que chaque jardin, chaque place, chaque parc peut devenir un refuge pour le vivant. Alors, à nous de jouer. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était Quentin, prenez soin de vous et à bientôt.
C'était La Vie Partout, réalisé par Quentin, un podcasteur indépendant. Et il s'est posé la question, est-ce vraiment utile de nourrir les oiseaux? Du coup, le podcast de cette émission était retrouvé sur radiocampustour.com. On se laisse sur une touche de musique. Est-ce que vous vous rappelez de Ben, l'oncle Soul? J'espère que vous vous en rappelez quand même. Il a sorti un album, Sad Generation, le 21 mars 2025. On se laisse sur le titre, en feat avec Kylan Arnold, Hard To Do. Et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Bonne soirée.
Everything that you never got, yeah. Tell me how it's all on me, girl, yeah. You're spilling dreams in a wine cup, yeah. I can feel our love drunk. I thought you'd never change. I know what you're going by with, yeah, I know what you're going by with. I know what you're going by with. So hard to do.
It's so hard to do.
Everything's gone astray. Cause I know what you're going my way. Maybe you should go yours. It's all up to you.
This love is anything but typical. But I think it might be time for us to let it go. Somehow we've forgotten how to get along. Both know letting go is hard but not impossible. You keep asking if I even care at all. Thinking maybe we should try something new. You told me I should go and do my thing. No, we try but they the same. Darling, you should probably go your way. I'll go mine too.
C'est-à-dire comment Ouais, je rame.
Rame donc. Rame, Samuel.
On va passer à la, une prochaine question.
Comment est-ce que je peux faire ça? Hop. Magnifique, ça sort pas.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.